Paysage post-carbone. J'avais besoin d'un temps de pause. Nous venions de parcourir le flot de cette histoire de l'apparition des énergies fossiles dans nos vies, de la nécessité d'une bonne dose de sobriété pour nous en passer, mais aussi de développer les alternatives. Mais celles-ci aussi ont des impacts. Poids des matériaux, empreinte spatiale, impact sur les paysages, les chiffres s'alignent sous la forme d'élégants schémas sur les murs du pavillon de l'Arsenal. Effrayant. Les deux tranches de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, c'est une centaine d'hectares et 1,2 million de tonnes. Le barrage de Serre-Ponçon, 2,2 millions. Une éolienne en mer du parc de Saint-Nazaire, 2900 tonnes. Les panneaux solaires sur mon toit, peut-être 150 kilos. L'énergie ne se compte pas qu'en kilowatts et mégawatts, mais aussi en tonnes et en hectares. Et apprendre la légèreté ne sera pas si simple. Alors cette banquette est la bienvenue. Comme l'est ce paysage calme devant moi, une forme de carte postale à peine animée d'une légère brise qui fait tourner une petite éolienne au profil familier. Nous voilà dans une petite rue, sans doute celle d'un lotissement cheminot des années 1960, au bord de voies ferrées abandonnées. Une drôle de petite voiture mal garée sur le trottoir se recharge par l'entremise d'un câble orange passé par-dessus la clôture. Derrière elle, une voiture de collection manifestement rétrofitée d'un moteur électrique. Pendant qu'elle patiente, des techniciens déploient un accordéon de panneaux solaires sur les voies. La rue a été blanchie pour réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain, tout comme les toits, quand ils n'ont pas été équipés de panneaux solaires. Je suis face à une image d'un banal présent, avec quelques graines de futur qui semblent déjà familières. Un futur possiblement proche, où l'énergie s'est faite légère. C'est un des 6 paysages post-carbone concoctés par Raphaël Ménard et Olivier Campagne pour cette exposition. Défile ensuite l'intérieur cosy d'un appartement urbain, une plaine agricole qui cultive son énergie, des toits parisiens adaptés au futur, une éolienne qui s'intègre à son paysage et à la vie des lieux, et même un fleuve qui renoue avec la production. Autant d'instants prospectifs ancrés dans le banal présent qui donnent envie d'y croire. Tout sauf des couvertures de romans de science-fiction ou des images d'illustrations de colloques sur la Smart City. Je retiens pour ma part l'idée qu'une somme de petites transformations peut déjà faire son effet, pour peu qu'on se donne la peine de s'y mettre, en misant sur quelques principes aussi simples que ces 6 légèretés qui clôturent le parcours. Sobriété, équilibre énergie-matière, simplicité, sol vivant, juste échelle et esthétique post-carbone. Je garde aussi en tête un procédé ingénieux, avec ces cartes postales à peine animées qui nous projettent dans un futur proche, éclairé d'un simple schéma explicatif. Un bon moyen de passer au travers du miroir. Alors on parcourt cette semaine cette exposition, intitulée « Énergie légère », avec Raphaël Ménard. Bonne visite.
Une ville en pleine expansion.
Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités.
Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ?
C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain.
On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. Hein. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones.
And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth.
On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité.
Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès.
Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense.
Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir.
Il s'agit du plan de sauvegarde, non ?
Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution.
On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Raphaël Ménard, bonjour.
Bonjour Sylvain Guézot.
Alors Raphaël, tu es président d'AREP. Cela vaudrait bien un podcast pour raconter notamment comment une structure de la taille d'AREP prend le virage de la transformation de ses pratiques face aux limites planétaires. Derrière des grands mots, il y a vraiment du concret. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour cela que je voulais qu'on échange, mais au sujet d'une exposition intrigante qui a lieu en ce moment au pavillon de l'Arsenal et dont tu es le commissaire. Alors son titre, c'est « Énergie légère », avec comme sous-titre « Usage, architecture et paysage », le tout au pluriel. C'est une sorte de fenêtre ouverte sur un monde sans pétrole, mais qui recèle quelques surprises. On y parle de l'importance des énergies fossiles dans nos vies et de la nécessité d'en passer par une bonne dose de sobriété pour nous en passer, mais aussi de développer les alternatives, évidemment. Mais ces alternatives, elles ont aussi des impacts, poids des matériaux, empreinte spatiale, impact sur les paysages, etc., etc., etc. On va parler de tout ça, mais commençons peut-être simplement par une question de fond. Pourquoi cette exposition? Pourquoi est-ce qu'il fallait la faire?
Ah, bah écoute, Sylvain, en fait, je pense que tu as choisi un très bon épithète, qui est celui de « intrigante ». En fait, moi, j'ai toujours été intrigué, je pense, dès mon plus jeune âge. Bah, de façon un peu générale par l'énergie et toujours intrigué voire même fasciné par aussi par les énergies renouvelables. Ça m'a toujours extrêmement stimulé de regarder ces objets, que ça soit un panneau solaire, que ça soit une éolienne, une sorte de bestiole qui a une capacité à convertir l'énergie. Voilà. Donc quelque part avec cette exposition et ce catalogue, bah, le pavillon de l'Arsenal m'a permis un peu de réaliser un rêve de gosse.
Alors, en effet, hein, on peut y visiter une forme de bestiaire, hein, avec toutes ces machines. Alors en photo, mais pas que, en réel et en vrai. Machines qui transforment sous un mouvement, un matériau en énergie. Alors peut-être qu'on peut reprendre déjà, commencer par là. Hein, y a toute une partie de l'expo qui est consacrée à ça. Finalement, l'histoire du développement de cette emprise des énergies carbonées, pétrole, charbon, gaz, sur nos vies, sur notre économie, jusqu'à ce qu'on en devienne complètement dépendant. Mais c'est une dépendance qui est finalement assez récente. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus?
Tu le dis bien, ce qu'on appelle aussi parfois aussi l'anthropocène, ou on va dire l'ère des fossiles, c'est quelque chose extrêmement récent, qui a à peine quelques siècles. Ça allait à peu près 200 ans. Avant, on vivait dans le règne des renouvelables, voilà. Et l'exposition, en fait, et tout au moins dans sa première partie, elle retrace un peu cette grande frise. Et comme tu l'as bien dit aussi, on va dire avec un cabinet de curiosité. Dans ce cabinet de curiosité, bah, il y a par exemple, il y a des joues de bœuf qui étaient ces pièces de bois. Des formes de bois très très légères et en même temps très savantes, qui avaient aussi pour fonction de faire le moins de mal possible aux buffles ou aux bœufs pour convertir au mieux la puissance animale et pour nous aider dans les travaux des champs, par exemple.
Mais on a aussi, on a là-dessus, en fait, l'exposition, elle reprend toutes ces gammes d'énergie. Qui aujourd'hui nous servent, aujourd'hui nous permettent de vivre. On retrouve évidemment le pétrole, mais aussi le nucléaire, etc., etc., avec une attention portée à la matérialité de tout ça. Hein, parce que tout ça ne pèse pas le même poids. Et on en parle très peu, en fait, de tout ça. On parle souvent des énergies, beaucoup, de plus en plus, renouvelables ou pas. Hein, mais on parle peu de cette partie-là.
Le fait est que l'exposition, elle s'appelle énergie légère au pluriel, et en effet, elle révèle finalement ce lien très étroit que l'énergie entretient avec la matière, que sont finalement les deux faces d'une même médaille, face qu'on connaît bien lorsque, par exemple, la combustion d'une bûche de bois, littéralement, on convertit de la matière, on fait changer d'état pour en récupérer une partie de son énergie chimique sous forme de chaleur, par exemple. Mais aussi plus récemment, on entend aussi beaucoup parler aussi par moment du coût finalement de la transition, sur le coût en effet pour aller vers un système électrique ou globalement énergétique massivement décarboné, peut-être plus électrifié, et on entend assez souvent des éléments qui arrivent dans le débat public sur le coût en ressources, par exemple pour passer à la mobilité électrique, ou des impacts en termes de matériaux ou de métaux rares, par exemple pour fabriquer des éoliennes offshore.
Alors justement, il y a une partie qui est intitulée Atlas dans l'exposition, qui vient décrypter finalement un certain nombre de systèmes énergétiques. Alors, de mémoire, hein, on va de la centrale nucléaire à l'isolant, mais en passant par toute une gamme de grands et petits systèmes, en venant finalement montrer, au-delà d'une production énergétique, la consommation de matière, le poids de tout ça, ou l'emprise au sol, ce qui n'est pas du tout anecdotique, avec les débats sur le zéro artificialisation net, par exemple, ou tout simplement l'impact sur les paysages. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu une petite gamme là, de ces différents impacts ou de ces différentes énergies?
Oui, bien sûr. Alors peut-être avant, pour que aussi les auditrices, auditeurs se repèrent un petit peu. Donc là, tu fais référence à la deuxième partie de l'exposition, ou la deuxième partie du catalogue, qui est en fait une sorte de scanner et d'état présent du paysage de l'énergie en France. Juste avant, on avait abordé, en effet, c'est la première partie qui était une sorte de petite histoire globale de l'énergie, ou d'ailleurs, petit exemple dans cette histoire, un exemple très léger qui était par exemple les joues de bœuf, mais il y a un autre exemple qui est montré dans l'iconographie qui est la machine de Marly, qui était une machine qui était bâtie à la fin 18e pour servir à l'adduction en eau du château de Versailles et qui était une machine hydraulique, ce qu'on peut appeler, qu'on peut qualifier d'énergie renouvelable. En revanche, elle avait consommé une quantité absolument phénoménale de bois, de fonte, de fer. Et lorsqu'on fait monter sur la balance la machine de Marly, on se rend compte que son rendement masse puissance était pas des plus efficaces. Et donc je parle de la machine de la Marly aussi, peut-être d'ailleurs pour la comparer à des congénères plus contemporaines, puisque comme tu l'as bien rappelé dans l'Atlas, en fait on a fait un travail, et c'est un travail qu'on a fait avec les équipes d'AREP, qui est de pouvoir sous-peser en fait des composants énergétiques jusqu'à l'infrastructure énergétique sur le avec les mêmes outils à la fois de l'ingénieur et de l'architecte. Donc on a commencé à bâtir cet atlas qui va du centrale nucléaire jusqu'à l'isolant, et pour chacune de ces architectures de l'énergie, on a estimé quel était l'impact matière du kilowattheure produit ou du kilowattheure non consommé. On a évidemment aussi estimé quel était l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour chacune de ces formes. Et pour te donner un exemple d'une métrique, et c'est vrai que c'est aussi une exposition, faire une exposition, par moments ça fait du bien et ça remet aussi en enthousiasme sur des choses que moi je sais depuis assez longtemps comme ingénieur, comme architecte, qui sont les vertus justement de l'isolant. Au cours de l'exposition, on a redocumenté quel était justement l'impact en termes de ressources de l'isolant, et c'est le record quelque part de la sobriété matière parmi toutes les formes qu'on a pu scanner dans cet atlas, puisque pour un kilowattheure de chaleur non consommée, le coût matière est de 8 grammes de matière, dans le tableau de synthèse la valeur la plus faible, et ces 8 grammes, ce sont aussi des 8 grammes d'une matière extrêmement simple et qui peut être d'ailleurs qui peut être d'origine biosourcée, qui peut correspondre à de la laine de chanvre, qui peut être du liège, donc une forme excessivement simple pour parvenir justement à être plus léger dans notre consommation d'énergie.
Oui, on va retrouver quelques énormes engins. Hein. Donc, on parle de renouvelables, mais là, j'ai sous les yeux le barrage de Serpenson en coupe, hein, sur lequel on voit l'ampleur matérielle de ce barrage-là, 2,2 millions de tonnes. Hein. Donc, c'est vraiment pas rien. Il y a aussi un autre aspect qui est assez marquant, du fait de mettre en parallèle, côte à côte, hein, ces différentes énergies, à la fois leur poids, évidemment les émissions carbone, mais ça on l'avait peut-être plus en tête, mais aussi leur géographie, hein, une forme de territoire hyper concentré dans certains cas, et parfois très diffus, hein, sur lequel on va avoir des géographies extrêmement différentes. Alors évidemment, quand on parle de... d'éoliennes en mer, hein, pour le moment on est sur quelque chose d'extrêmement concentré, en tout cas en France, avec un seul parc connecté, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui pour les éoliennes au sol, mais on constate ce qu'on entend dire de temps en temps, mais là on le voit vraiment visuellement de façon massive, le fait qu'il y a une partie du territoire qui est beaucoup plus couverte que le reste.
Oui, bah, c'est ce qu'on voulait aussi montrer dans l'Atlas. C'est comme tu l'as bien dit, il y a à la fois un travail, on va dire, de coupe et de coupe dans la relation au grand paysage avec, tu sais, tout à l'heure, le barrage de Serre-Ponçon et avec ses 2 200 000 tonnes, alors qu'en revanche, voilà, une capacité installée de, je crois, de 380 mégawatts pour chacun de ces typologies aussi, de pouvoir illustrer la variabilité de la production, parce que le vent, il n'y en a pas toujours. En revanche, une centrale nucléaire produit, elle, de façon beaucoup plus constante, sauf lorsqu'il y a un grand carénage. Et on a fait aussi ce travail à l'échelle de l'Hexagone pour montrer la régionalisation ou, au contraire, les endroits très locaux où sont situés. Bah, la France est pas mal à la bourre, en effet, pour l'installation de son éolien maritime. Pointer aussi les 52 sites où on trouve des centrales nucléaires, ou en revanche, de façon beaucoup plus diffuse, le solaire intégré au bâti. Solaire intégré au bâti, qui est aussi illustré sur un projet de Raphaël Cabrillon et la façon dont des confrères arrivent à jouer finalement avec les énergies renouvelables et à les intégrer dans leur projet. Et pour reprendre ce que tu évoquais aussi sur l'éolien terrestre, celui-là, c'est là où les liens aussi avec l'histoire sont assez fructueux. On entend souvent parler de ce qu'on appelle le NIMBY effect, hein, sur la question de l'intégration des renouvelables et particulièrement de l'éolien. Faut avoir en tête qu'en France, aujourd'hui, il y a à peu près 9000 mâts éoliens qui sont installés. Et il y avait, avant le démantèlement du fait du charbon, il y avait à peu près 9000 moulins à vent qui étaient installés dans les paysages, dans les passages français, il y a encore 2 siècles. Et donc, c'est aussi des choses qu'on a oubliées, comme on a aussi oublié que les bords de Seine étaient constellés d'endroits où on entassait le bois parce que l'énergie massivement utilisée, avant l'apparition des fossiles, c'était avant toute chose la biomasse. Voilà.
Oui, parce que cette histoire du développement des fossiles, cette histoire récente du développement des fossiles et l'émergence de cette dépendance et de cette impasse carbonée, c'est aussi l'histoire de la disparition des renouvelables. Hein. Alors, sans doute, ce n'est pas les mêmes qu'il faut qu'on développe demain. Mais quoi qu'il en soit, il y a une forme là-dessus de boucle retour qui est aussi intéressante. Peut-être pour conclure là sur la partie constat, en tout cas présent avant de se projeter, toi, de ce travail là d'atlas, de cartographie, d'objectivation finalement des poids de chacune de ces énergies, il y a des choses qui t'ont surpris, il y a des qu'est-ce que t'en as tiré de cette mise en parallèle de tout ça? Parce qu'on a rarement cette image-là, hein, de tout voir finalement, enfin tout voir, ou en tout cas l'essentiel, côte à côte, et de comprendre qu'on a à la fois une forte diversité dans les énergies qu'on utilise, mais finalement qu'elles ont, elles prennent des sens très très différents.
Cette exposition, c'était aussi l'occasion de tester des choses. Quand je dis tester des choses, c'était de tenter de rendre quelque chose abstrait, impalpable, qu'est l'énergie, et de la rendre visuelle. Le propos de l'exposition Énergie légère, j'ai dit, c'est ce rêve de gosse, mais c'est aussi elle a aussi une vocation aussi, je dirais, didactique, pédagogique, et pas que pour les confrères architectes, ingénieurs, paysagistes, designers, et j'en passe. Et je suis très content de voir aussi qu'il y a beaucoup de classes de primaire et de collège qui vont voir cette expo, et aussi de montrer finalement la physique des choses qui sont à l'œuvre et la façon finalement comment les éléments interagissent avec certaines catégories d'architecture, hein, qui sont là pour convertir, transformer ou moins consommer d'énergie. Et donc on a fait ce travail dans l'Atlas aussi, qui est dans ce travail de bichromie entre la partie construite qui est rouge-orangée et la partie du flux d'énergie qui est, elle, représentée de façon bleu-turquoise, et de montrer comment l'un échange avec l'autre. Et j'espère que lorsque les visiteurs voient l'expo, à un moment, ils ont un peu mieux compris l'efficacité d'une éolienne contemporaine. Une éolienne contemporaine, il faut aussi... après, on peut trouver ça beau, on peut trouver ça moche, on peut considérer que c'est pas ça qui sera le grand soir unique de la décarbonation. En revanche, c'est quand même des objets qui sont devenus extrêmement efficaces dans leur capacité à convertir l'énergie cinétique du vent. Une éolienne contemporaine, c'est pas très très loin du rendement théorique maximum qu'on appelle la limite de Betz, BETZ, qui est de 59%. Aujourd'hui, une éolienne contemporaine, le tube d'air qui est face à elle, elle convertit avec des rendements qui sont pas très éloignés de cette limite théorique-là.
Alors, des constats. On constate, comme visiteur aussi, ce foisonnement, en fait, cette très très grande diversité. Et tu le disais, il n'y a sans doute pas une solution unique, de toute manière. C'est bien dans la diversité que sera, si ce n'est la solution, ou en tout cas le réel. Mais on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là du tout. On passe aussi à des futurs ou à des bouts de futurs, un bout de prospective, avec une façon que j'ai trouvée extrêmement élégante, mais surtout extrêmement parlante, vivifiante et... peut-être là où on retrouve le terme d'intrigante, des petites fenêtres ouvertes sur le futur, des formes de cartes postales, des cartes postales animées. Est-ce que peut-être tu peux nous raconter, avant qu'on rentre dans le contenu, mais un peu le procédé qui est pas complexe, mais qui pour le coup j'ai trouvé très original et parlant.
Ah, donc là, tu veux parler peut-être de la troisième partie. La troisième
tout à fait, partie les six paysages.
Pour ceux qui nous écoutent, c'est les six paysages post-carbone. Donc ça, c'est vrai. Après de l'Atlas, qui était finalement une sorte d'instantané, je le dis avec humilité, incomplet de l'énergie en France, puisque dans les 11-12 planches qu'on a faites, il y en a beaucoup qui manquent pour essayer de reconstituer ne serait-ce que la consommation finale française, qui d'ailleurs à plus de 60% est d'origine fossile. Manque à notre Atlas, par exemple, un avion, une voiture, un bateau. Ça peut-être qu'il y a des confrères qui poursuivront l'aventure. Donc, on a attaqué après aussi une autre aventure qui est avec autour de six images animées. Et donc, ça, c'était aussi la partie, je dirais, presque de grâce et de plaisir de cette exposition, qui est aussi une très belle aventure humaine et faite de rencontres. Et c'est une rencontre avec Olivier Campagne. Olivier Campagne, il est architecte et c'est aussi un magicien, on va dire, de l'effet spécial ou de cette forme de sublimation du réel. Et c'était pour moi aussi peut-être la partie, je dirais, presque la plus dangereuse, la plus risquée, qui était de dire, allez, vas-y, raconte-nous, montre-nous à quoi ça ressemble justement un futur avec beaucoup moins de carbone, un futur post-carbone. Et là, le pari qu'on a fait, c'était pas... Alors déjà, c'était d'éviter la carte postale, pour reprendre ton terme. C'est une vision en 2050, alors une carte postale sous forme de petite BD dessinée, ou une carte postale qui pouvait aussi peut-être un peu trop ressembler à une couverture de Science et Vie ou de Science et Vie Junior. Et avec Olivier, on a voulu finalement raconter des scènes de tous les jours, et des scènes de tous les jours dans lesquelles il y avait des petites choses qui arrivaient. Et donc de façon, je dirais, à la fois peut-être intrigante, mais aussi ludique, on a fait un peu un « Où est Charlie de l'énergie ?». Et donc chacun de ces paysages est à charge du visiteur ou de celui qui parcourt le catalogue, de découvrir quelles ont été les demi-douzaines d'objets qui ont été transformés dans chacune des scènes. Et l'idée sous-jacente, c'était pas d'attendre nécessairement un grand soir finalement d'un monde qui retrouve finalement une trajectoire sobre et renouvelable, mais c'était au contraire de dire que déjà ça pouvait être demain. Donc ces vidéos elles sont pas datées, parce qu'on veut aussi suggérer que il faut s'y mettre maintenant, on parle souvent de l'urgence écologique, et on voit bien que sur le chemin de la sobriété il y a encore vraiment vraiment du boulot, pareil aussi sur l'efficacité, pareil aussi évidemment sur les renouvelables. On voulait par ailleurs, dans quelques tableaux aussi, pointer l'enjeu de l'adaptation au changement climatique. C'est vrai que on regrette par moment que cette bascule en dehors des fossiles, on l'ait pas attaqué beaucoup plus tôt. Et il y a quelques décennies, on savait. Il y a d'ailleurs une des planches de la première partie qui montre Jimmy Carter en train d'installer les panneaux solaires sur la Maison Blanche. Et donc on a raté quand même un certain nombre d'occasions pour essayer de se défaire un peu du joug des énergies fossiles, qui représentent encore près de 80% de l'énergie consommée dans le monde. Il faut qu'en plus maintenant on s'adapte, Et donc, il y a quelques images, en particulier celle des toits et celle de la desserte pavillonnaire, qui illustrent aussi quelques petits clins d'œil pour à la fois atténuer, mais aussi s'adapter.
Alors oui, c'est des images du quotidien, hein, des petits bouts d'un quotidien banal, un bout de quartier pavillonnaire avec une voie ferrée, un intérieur en ville, une chambre d'étudiante, une plaine agricole, une vue sur les toits de Paris, des éoliennes plantées au milieu des champs ou un paysage fluvial avec un certain nombre de sites de production. C'est à la fois du banal et c'est du présent. On n'est pas du tout dans des images de science-fiction, mais c'est du présent avec des brins de futur dedans, avec des petites graines de futur. Et c'est ça d'ailleurs qui est assez surprenant. C'est cette capacité à tout changer sans pour autant tout bouleverser. Hein. Donc c'est pas un futur distant, c'est aujourd'hui dans lesquels on peut faire des choses et y a déjà beaucoup de petits événements qui sont possibles. Et donc, on a ces images très calmes, d'ailleurs. On peut s'asseoir devant et je crois que c'est important parce qu'on sort aussi de... Voilà, on arrive sur la fin de l'exposition. Il y a besoin aussi de réfléchir à ça et tout à coup, les choses ont l'air atteignables. C'est pas si gros, c'est pas si immense et finalement, en effet, c'est pas une image de la ville du futur sur Sciences et Vie Junior. C'est chez nous, hein, c'est aujourd'hui et on peut y aller. Peut-être qu'on peut brosser un peu le détail, par exemple du quartier pavillonnaire où il y a pas grand-chose, hein, des petites maisons sur lesquelles il y a eu quelques modifications, quelques véhicules garés comme dans toute rue aujourd'hui. Un bout de voie de chemin de fer sur lequel il se passe des trucs étranges. Est-ce qu'on peut peut-être partir de là?
Oui, on peut commencer tout à fait par celle-ci. Tu l'as bien mentionné. En fait, ce qui m'intéressait, c'était traiter finalement d'une certaine banalité et trouver aussi de la poésie et littéralement de la légèreté finalement dans l'usuel et dans le quotidien. Et d'ailleurs, dans ces scènes, il y a à la fois des choses qui sont... certaines très gracieuses comme l'éolienne de la plaine qu'on a totalement redessinée et qui vient se poser de façon beaucoup plus délicate sur le sol, des choses peut-être un peu plus intrigantes comme la grille aérosolaire qui recompose un paysage agricole et dans la scène du pavillon il y a à la fois presque un peu du lait puisque il y a une pompe à chaleur qui a été installée sur le tympan d'une des maisons qui compose ce quartier pavillonnaire. Et puis, à côté, pas très loin aussi de l'élégant, avec une vieille voiture, une vieille voiture d'ailleurs très, très, très légère, très effilée, qui est une Panhard de 1967, qui a été rétrofitée. Ça veut dire qu'on lui a substitué son moteur à explosion, son moteur à essence par un pack thermique. Et donc, c'était aussi suggéré que l'ancien, le beau, c'est pas que l'immobilier, ça peut être aussi d'ailleurs aussi la vieille voiture aussi, ça peut se réhabiliter et puis elle peut aussi se décarboner, se post-carboniser presque. Et des objets aussi plus légers, d'ailleurs un objet qui a été dessiné, conçu par les équipes d'AREP qui s'appelle la Plateau, qui est un quadricycle, qui est aussi pointé le sujet de les sujets de transition mobilitaire et que lorsqu'on est loin d'une desserte en transport en commun. C'est pas forcément simple de relier la future gare du Grand Paris Express avec son vélo, même s'il a assistance électrique, et que un quadricycle de 300-400 kilos, ça fait sans doute l'affaire pour une grande partie de la mobilité du quotidien. Et puis pour continuer cette scène, je dirais il y a presque l'objet le plus léger qui compose d'ailleurs deux scènes, qui est à la fois celle du pavillon et aussi des toits parisiens. Qui est une couverture de survie, qui est une idée qui m'a été soufflée par la climatologue Valérie Masson-Delmotte, une couverture de survie qu'on coince par l'extérieur sur son Vélux, lorsqu'on est en affront d'un épisode caniculaire, par un Vélux, il peut y avoir à peu près 1000 watts de soleil qui peut rentrer assez facilement, et c'est une protection solaire vraiment très, très peu chère et très, très, très légère, qui permet de un tout petit peu de s'adapter dans ce type de situation de chaleur qu'on rencontre de plus en plus en zone métropolitaine.
J'avais envie que tu nous parles justement en termes de légèreté de ces éoliennes, hein, posées dans des champs, mais élégamment, et aussi peut-être de ce bureau sur lequel est en train de travailler une étudiante. Puis on laissera découvrir le reste, évidemment, aux auditeurs.
Alors, tu fais peut-être référence, parce qu'en fait, il y a deux types d'éoliennes, mais je pense que tu dois parler des grandes, de celles que dans la scène qui s'appelle l'Horizon.
Ouais, c'est ça.
Alors ça, on a été d'abord très, 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 très littéral, puisque, énergie légère, c'est aussi, on en parlera peut-être en conclusion de ce podcast, et c'est de façon très triviale, c'est la légèreté tout court, et c'est de voir comment on peut faire pour rendre une éolienne contemporaine moins lourde. Et une grande partie du poids des éoliennes, sont en fait les fondations en béton, c'est aussi la partie basse du mât, qui sont des tôles d'acier assez épaisses. Et donc là, on a redessiné la façon dont l'éolienne faisait se poser au sol avec plus d'emprise. Et avec cette emprise, on devrait probablement arriver à alléger de quelques centaines de tonnes de béton et d'acier cette éolienne. Et on profite finalement de ce petit élargissement en partie basse pour aussi réfléchir à des co-usages, à hybrider les énergies renouvelables pour qu'elles soient pas que des objets uniquement dédiés à la production énergétique, et que demain cette éolienne puisse être un hangar agricole, qu'elle puisse permettre d'aller protéger un tracteur, peut-être qui est d'ailleurs peut-être venu électrique, de pouvoir y intégrer un électrolyseur, pouvoir y intégrer s'il le faut aussi, on sait qu'il y a aussi des sujets d'intégration paysagère pour les silos à biométhane. Et le message qu'on voulait aussi passer par ces images, c'est aussi un appel d'air, je dirais presque, aller inventif, pour que les confrères, les architectes, les ingénieurs, les paysagistes s'occupent finalement de la façon dont on va retraiter l'énergie, comment on va affronter ce que RTE appelle le surgissement des énergies, et comment, avec des énergies qui seront très probablement beaucoup plus locales, leur visibilité devient un enjeu collectif d'appropriation et tout simplement un projet politique.
Oui, parce qu'elles sont mieux insérées, parce que ça devient aussi des outils de production agricole, et plus légères aussi esthétiquement, pas que sur leur poids, sur la balance, mais on le voit bien visuellement. Et peut-être à une échelle complètement différente, puisqu'après, ça fait partie des objets exposés aussi dans l'exposition. Peut-être revenir sur ce bureau, moi qui m'a intrigué, plus exactement, qui m'a donné envie.
L'exposition, elle veut finalement, elle cherche pas à pointer ce qui est bien, ce qui est pas bien, et c'est d'éviter l'écueil qu'on a parfois sur les enjeux de transition énergétique, savoir si il faut à quel niveau du nucléaire il faut, ou quelle quantité de renouvelables, etc. il faut ou pas. Le message clé, c'est surtout d'y aller, et c'est d'y aller dans une myriade finalement d'échelles qui vont de l'échelle individuelle en passant à celle du voisinage et en allant jusqu'à la question de la politique publique. Et dans cette scène que tu mentionnes sur l'intérieur, l'idée était aussi de regarder avec un œil neuf les questions même d'ameublement, les questions de design, les questions d'aménagement intérieur, qui ne seront certes demain pas le grand soir de la rénovation énergétique, et que la scène qui se déroule à l'intérieur, évidemment, on attend à ce que le bailleur ou la copropriété lance enfin le grand chantier d'isolation thermique par l'extérieur, rénove les baies, les toits, etc. Mais il y a un certain nombre de petites victoires qui peuvent se faire de façon assez rapide, en intégrant par exemple des rideaux avec des qualités thermiques particulières, ou encore avec cette table, qui est une table climatique qu'on a conçue avec Jean-Sébastien Lagrange, qui est designer, et qui comporte des matériaux à changement de phase, et donc qui permet d'apporter des qualités thermiques à l'intérieur, par justement, non pas par de l'immobilier, mais littéralement par du mobilier.
Une bonne illustration, en effet, des petits et des grandes choses qui sont proposées au fil de l'exposition, qui est conclue par... par si légèreté. En fait, des formes de principes, des mantras quelque part à appliquer, on le voit bien hein, dans nos projets, ça parle là à la vie quotidienne, mais aussi et surtout à celles et ceux qui font la ville et les bâtiments qui la composent. Peut-être qu'on peut les reprendre, certains sont peut-être plus évidents que d'autres. Sobriété, équilibre énergie-matière, simplicité, sol vivant, juste échelle. Et pour finir, par esthétique post-carbone. Peut-être nous éclairer un petit peu sur ces différents, ces six légèretés.
Bah, la toute première, tu l'as évoqué, c'est la sobriété, qui est finalement la plus simple, la plus évidente, qui est celle littéralement du pied léger. Hein, du pied léger pour passer de 130 à 110 sur l'autoroute, parce que c'est déjà un petit peu de gagner en termes de consommation d'énergie fossile. Et puis, de façon plus générale, c'est vrai que je pense à des associations comme Megawatt qui depuis des dizaines et dizaines d'années, évidemment, invitent en effet à faire le pied léger globalement sur nos consommations d'énergie et dessiner une France à 1000 TWh. Et on sait bien que ça rend en effet la bascule vers un retour au renouvelable d'autant plus aisé. Le deuxième mantra, peut-être que le mot est un peu excessif, parce que j'ai envie d'aller jusque-là, mais c'est plutôt une façon de ponctuer justement autour de six enjeux, ce qu'est cette légèreté énergétique. Et évidemment, cette question de l'équilibre énergie-matière, équilibre aussi qui va presque vers une sorte d'horizon ultime, hein, qui sera peut-être, ma quête infinie, hein, qui est littéralement de comment fait-on pour produire un maximum d'énergie pour une masse la plus réduite possible. Je fais presque aussi un parallèle avec ce qu'on appelle aussi parfois, en termes d'ingénierie de structures, ce qu'on appelle les structures légères, qui sont les structures qui, à un chargement donné, sont le plus léger possible. Bah, il y a quelque part cette quête presque d'un méta-design et voir comment j'utilise le moins de ressources pour un maximum de conversion d'énergie. Voilà. Donc, et ça, l'exposition montre aussi, justement, peut-être avec un regard renouvelé, ce qui a été fait aussi par nos aïeux sur l'art à la manière, par exemple, de chasser le vent et de faire des moulins à vent qui étaient principalement faits de bois, de pierre et avec une très grande frugalité en termes de matière. L'autre enjeu aussi de l'exposition, c'est cet enjeu aussi d'appropriation et de simplicité. Et oui. C'est vrai que l'exposition montre, par exemple, l'éolienne autoconstruite par YouPilot, quoi, qui est cette éolienne qui est devenue presque un standard de do-it-yourself où on peut s'inscrire à des stages pour apprendre à fabriquer d'ailleurs soi-même son éolienne. Et c'est vrai qu'il y a une très belle histoire d'inventeurs, de bricoleurs qui nous offrent beaucoup de pistes pour que la question énergétique ne soit pas une question abstraite. C'est vrai qu'on est aussi pris aussi dans une histoire d'un rapport très éloigné à l'énergie où la plupart de nos concitoyens ne se posent pas forcément tous les jours la question de savoir ce qui se passe derrière une prise de courant. Et on comprend bien qu'il y a cette nécessité de reprendre attache avec le réel et de savoir comment l'énergie se convertit, comment elle se transforme, comment elle se fabrique. Et donc, cette question de la simplicité, elle est importante. Elle va aussi avec la question aussi de la réparabilité. Je fais aussi le clin d'œil avec l'un des paysages, qui est justement le paysage avec la grille aérosolaire, qui est l'idée aussi d'utiliser aussi peut-être des objets qui sont de dimension plus modeste. Et en étant plus modeste, peut-être qu'ils sont plus aisément accessibles et réparables. Alors, j'ai peut-être pas toutes les faire, mais j'en prends aussi un autre exemple aussi de légèreté qui est pointé parmi les six, qui est la question de l'échelle. C'est vrai que j'évoquais tout à l'heure la question du NIMBY et la question de la taille et que comme beaucoup d'infrastructures, les énergies renouvelables n'échappent pas à la loi du gigantisme, hein, à l'économie d'échelle et de faire des turbines de plus en plus grandes, de plus en plus hautes. Pour pouvoir installer des capacités de plus en plus importantes. La question aussi que pose l'exposition, c'est encore une fois vouloir pousser aux hégémonies les grandes éoliennes ou les grandes infrastructures, mais aussi de repositionner peut-être l'échelle intermédiaire comme l'éolienne de dessinée par Renzo Piano, qui est montrée dans la première partie, qui est une éolienne qui fait une cinquantaine de mètres de haut. Alors certes, elle est moins puissante qu'une éolienne qui fait 100 mètres de haut, mais elle permet peut-être une appropriation locale peut-être plus aisée, peut-être qu'elle permet d'ailleurs plus aisément des financements participatifs. Et donc l'énergie légère, c'est aussi cette question-là, c'est cette question peut-être d'avoir plus d'objets de taille intermédiaire que moins d'objets de très grande taille. Poser cette question de la répartition.
Et je veux bien quand même qu'on aborde le dernier, hein, l'esthétique post-carbone, moi que je trouvais intéressante.
Bah, la question de l'esthétique post-carbone, c'est un peu un appel avec le mégaphone, architecte et ingénieur de tous les pays, unissez-vous et partez en curiosité sur l'ensemble des dispositifs énergétiques parce que finalement, nos paysages, nos architectures ont besoin de vous. Très souvent, on associe en effet l'architecte à celle ou celui qui se penche sur le bâti, et plus particulièrement sur le fait que, comme tu l'as bien écrit, cher Sylvain, réparer la ville. Mais il y a assurément des petits pas de côté aussi à avoir sur des objets dont on a l'impression qu'ils sont à la main finalement de développeurs et d'industriels, et donc il serait quand même plutôt de bon ton qu'ils soient de temps en temps un tout petit peu redessinés pour qu'ils soient un peu plus aimables et que on ait davantage envie collectivement. Politiquement, d'aller beaucoup plus vite en dehors d'aller beaucoup plus vite vers un monde qui sera libéré des énergies fossiles. Donc, c'est ce sujet de l'esthétique post-carbone, je dirais presque pour ces petits clins d'œil aussi à la loi sur l'architecture de 1977 qui dit que, voilà, dès qu'il y a plus de 150 mètres carrés, il faut faire appel à un architecte. Je crois qu'il y a un seuil aussi pour l'aménagement d'espaces paysagers pour les confrères paysagistes. Ben là, le sujet, c'est de dire, ben, est-ce qu'il ne faut pas aussi corriger peut-être la loi sur l'architecture pour qu'on parle d'une certaine quantité d'énergie, ben, faire appel à des femmes et des hommes de l'art pour rendre tout ça un peu plus tout simplement aimable. Voilà.
Et tout ça, est-ce que au quotidien, dans la pratique, quand on sort d'une salle d'exposition, quand on sort de l'écriture, hein, du catalogue de l'exposition, qui est loin d'être un objet anecdotique, hein. On est vraiment sur un ouvrage qui se tient aussi tout seul, hein, d'ailleurs, pas que pour ceux qui ont visité l'expo et qu'on rentre chez AREP, cette grande agence. Comment est-ce que tout ça prend forme ou pas, commence à prendre forme dans le quotidien de la pratique des architectes et des ingénieurs?
Bah, je sais pas si tous les jours on arrive tout le temps à être super léger et à mettre des énergies légères dans tous les projets d'AREP. Alors en tout cas, ce que je peux décrire un tout petit peu, c'est qu'on a mis en place une méthode, ou tout au moins aussi une méthode qui est aussi une métrique, qui est ce qu'on appelle EMC2B. EMC2B, c'est pour énergie, matière, carbone, climat et biodiversité. Et donc si je prends les deux premières lettres, énergie et matière, bah, dans les projets qui sont regardés, conçus par AREP, ben on essaie de les peser sur quelle est l'énergie qu'ils consomment, est-ce qu'ils arrivent ou pas à intégrer des énergies renouvelables, combien aussi ils pèsent, voilà. Donc au quotidien, on essaie d'ébaucher un peu cette dialectique, tu vois, justement entre, par exemple, énergie et matière. J'en ai parlé un tout petit peu avant, je mentionnais qu'on essayait de participer à cet élan créatif qui a été lancé par l'ADEME, qui est l'extrême défi autour de ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires, donc qui est un peu, on va dire, cette sorte de trou dans l'arbre du non pas du vivant, mais de l'arbre des mobilités entre le vélo et la voiture. Et donc là, il y a tout un zoo extrêmement sympathique qui est en train d'éclore. Et dans l'une des vidéos, bah, AREP a fait un petit placement produit en montrant le véhicule qui s'appelle un véhicule de moins de 400 kilos qui s'appelle la Plateau. On va essayer aussi peut-être de faire un prototype pour voir si on peut faire ce qu'on appelle ce solaire vertible sur voie, c'est-à-dire de pouvoir installer des panneaux solaires un peu comme un serpentin électrique qui viendrait se positionner sur des rails qui seraient pas utilisés pendant un certain temps. Et puis dans d'autres exemples, on va dire plus courants et peut-être un peu moins innovation recherche, bah là en ce moment on est en train de construire et d'installer la halle à vélo sur l'ancienne gare routière de la gare du Nord, qui sera une grande halle solaire qui protégera jusqu'à 1200 vélos sur la partie est de la gare du Nord. Donc on essaie, quoi, tu vois, comme tu le vois dans nos projets, de faire sobre et puis aussi de se dire qu'à chaque fois qu'il y a un toit, c'est quand même une surface potentiellement qui est artificialisée par ou tout au moins qui est protégée par une structure minérale. Cette structure minérale, autant se faire ce peu, autant qu'elle soit productive, d'autant que maintenant que les fabricants de panneaux solaires savent faire des choses qui sont beaucoup plus gracieuses qu'elles n'étaient encore il y a quelques années. Voilà.
Ben écoute, merci Raphaël pour cette visite guidée. Vous manquerez pas donc d'aller visiter l'exposition qui est encore au pavillon de l'Arsenal pour quelques semaines et puis de consulter le catalogue de l'exposition Énergie légère. Mais on va mettre tous les liens, toutes les références en commentaire du podcast. Mais peut-être pour finir, est-ce que tu as des conseils de lecture ou autre, plutôt en termes d'ouverture, après cette petite balade?
J'en ai beaucoup. Alors d'ailleurs, il y a une très belle bibliographie dans le catalogue de l'exposition. Donc pour toutes celles et ceux qui voudraient en savoir plus généralement sur l'énergie, rendez-vous dans la bibliographie qu'on a coécrite d'ailleurs avec Jean Souviron, à qui je passe un petit coucou. Je vais peut-être prendre trois livres. Il y en a un, et d'ailleurs l'exposition à sa façon lui rend un petit hommage puisque c'est le livre de Thierry Casazian, qui est Il y aura l'âge des choses légères. Autre personne aussi trop tôt disparue, c'est David Mackay, ce physicien de Cambridge qui avait écrit Sustainable Energy Without the Hot Air, qui est accessible en PDF, je crois, dans beaucoup de langues, et qui est un magnifique manuel pour apprendre aussi à compter l'énergie et apprendre à compter l'énergie à la fois dans le bâtiment, dans la mobilité, et aussi à compter aussi l'énergie en termes de production. Ça, ça a été un livre de chevet absolument incroyable et qui est d'ailleurs un conseil de lecture que je donne à tous mes étudiants depuis une quinzaine d'années. Et puis, si vous voulez aussi un peu plus en savoir plus sur ce qui nous arrive depuis l'Anthropocène et plus particulièrement sous le règne du roi pétrole, qui reste toujours la première énergie consommée dans le monde, il faut lire Mathieu Ozanneau, L'or noir, la grande histoire du pétrole, qui en 150 ans vous raconte tout ce qui s'est passé depuis le colonel Drake et les premiers Derrick dans les Appalaches sur la côte est des États-Unis. Voilà.
Raphaël Ménard, merci beaucoup pour cette balade, pour cette visite et puis pour tout ce travail. Et puis à bientôt. On ne manquera pas de se recroiser pour parler de la suite de tout ça.
Avec grand plaisir, cher Sylvain. Merci beaucoup pour ton interview.